Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 12 mars 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, ça a été quand même une semaine assez rough hein, depuis la semaine passée. Donc, est-ce que tu peux nous dire les nouvelles qui ont retenu ton attention et aussi peut-être les investisseurs sont inquiets, donc peut-être parler de qu'est-ce qu'on recommande dans ces temps difficiles?
Oui, effectivement, la semaine a été passablement difficile. Puis en fait, même depuis le début du mois, on a des bourses à la baisse. Donc le TSX est en baisse de 4,5%, le S&P 500 en baisse de 6,5%, le Nasdaq en baisse de 7,5%. Donc année à jour, la baisse avait débuté là, déjà vers la fin de février. Donc le Nasdaq est environ 9,3% de baisse depuis le début de l'année. Le S&P 500, moins 5%. Le TSX, moins 2. Par contre, l'indice obligataire universel est en hausse de 1,5. Tu as mentionné, les clients sont inquiets. Effectivement, on reçoit quand même passablement d'appels, mais le constat que je fais, les clients ont l'impression d'avoir perdu beaucoup plus en pourcentage que la baisse réelle du portefeuille. Il faut se rappeler qu'un marché boursier, là, normal, 5, quand tout se passe traditionnellement, ben, le rendement annuel moyen du S&P 500 là, depuis 50 ans, c'est à peu près 10 % par année. Mais la baisse intra-année moyenne, c'est moins 13 %. Donc, quand les marchés boursiers baissent de 12, 13, 14 %, c'est pas la catastrophe, c'est pas la fin du monde, comme ils mentionnent dans les médias, c'est juste normal. Il faut juste prendre notre gaz égal, laisser aller les choses, et puis juste passer à travers cette période-là. On n'est même pas encore à une baisse normale.
Bien, puis aussi, il faut savoir que nos portefeuilles sont composés de toutes sortes de différentes actions, obligations, et que les actions, c'est pas tout américain, c'est pas tout canadien. Donc, quand on est bien diversifié, c'est pas aussi pire que les nouvelles peuvent le dire.
Puis tu fais bien de le mentionner, parce qu'on l'a dit la semaine passée sur le balado, là, les indices européens, eux, sont en hausse de 10-12 % année à jour. Donc, nous, on est rivés sur les indices nord-américains, là, le S&P 500, le Dow Jones, le TSX au Canada, mais on oublie qu'il y a tout le reste de la planète qui fait partie des portefeuilles des clients à 10, 20, 30 % d'exposition. Certains titres aussi ont quand même bien fait dans le portefeuille. Donc, quand on parle de titres individuels, il y a certaines entreprises qui ont moins bien fait dans les dernières années. Puis là, cette année, bien, un titre comme TELUS est en hausse de 19 % depuis le début de l'année. Northland Power, qui a souffert quand même pas mal dans les 2-3 dernières années, plus 8 cette année. Power Corp, plus 9. TD Bank, plus 10. Waste Connection, plus 9. Donc, ce sont des titres qu'on retrouve là, dans le compte des clients. Là, c'est pas tout le monde qui a tous ces titres-là, mais la plupart des gens ont 1, 2, 3, 4 de ces titres-là. Ben, oui, l'indice baisse, mais il y a quand même des choses qui montent. Puis en bout de ligne, quand on regarde la performance totale du portefeuille, c'est pas mal moins pire que ce que les gens pensent que c'est.
Bien, puis tu as parlé de l'indice obligataire. Je pense que c'est important de dire que l'indice obligataire, quand les gens ont des obligations, c'est ça, la diversification fait tout son œuvre. On comprend que vous êtes inquiets.
Ouais.
Appelez-nous, on est là pour ces moments-là difficiles. Et nous, on revient toujours à la base de qu'est-ce qu'on apprend comme conseiller, comme investisseur. Donc, on va vous aider à passer à travers.
C'est ça. Bien, notre corps de siècle d'expérience dans le marché, ça ne nous immunise pas contre la peur dans ces circonstances-là. Par contre, on sait comment se comporter dans un portefeuille malgré la peur. C'est ça qui est important de retenir.
Super. Donc, on va parler d'un sujet quand même fort intéressant aujourd'hui. Vendredi passé, il y a eu des chiffres de non-farm payroll aux ouais. États-Unis qui sont sortis. En français, ce chiffre se traduit comme les emplois qui sont non agricoles.
Ouais.
C'est comme ça qu'on a réussi à le traduire. Le langage financier souvent se passe en anglais. C'est un des statistiques qui nous intéresse beaucoup et qui peut définitivement avoir un impact sur le marché à court terme.
Ouais.
Donc, nous avons trouvé que cela pourrait être intéressant aujourd'hui de parler de statistiques économiques les plus importantes qui peuvent influencer les marchés financiers. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou que vous débutez, comprendre ces chiffres est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Et aussi, parmi toutes les incertitudes qu'on vit en ce moment, c'est au moins quelque chose de cartésien sur laquelle on peut se fier. Et c'est comme ça qu'on travaille, on revient à la base quand on s'emporte dans la peur. Commençons par poser les bases. Les statistiques économiques sont des chiffres qui mesurent l'état de l'économie d'un pays. Elles sont publiées régulièrement par les gouvernements et les institutions financières et sont utilisées pour comprendre les tendances, donc les grandes tendances économiques, et faire des prévisions. Ces données peuvent avoir un impact énorme sur les marchés, comme j'ai dit, car elles reflètent la santé de l'économie dans son ensemble. Martin, quels sont les indicateurs clés et peux-tu nous les décrire?
Bien, il y a toute une série, puis on va pas passer à travers là, toute la liste là, au complet, mais les principaux là, qui nous intéressent, donc les données sur le produit intérieur brut, le PIB. C'est quoi le PIB? Bien, le PIB, c'est une des statistiques les plus importantes. C'est vraiment la mesure de la valeur de tous les biens et services dans un pays pour une période donnée. Donc, un PIB qui augmente, bien, ça signifie que l'économie se développe, ça va bien, les gens travaillent, puis on crée plus de richesses. Puis c'est généralement bon pour les marchés boursiers. À l'inverse, un PIB qui se contracte, bien, ça indique généralement, en fait, une récession à venir ou, bien, donc, techniquement, là, une récession, c'est deux trimestres consécutifs de contraction du PIB. Donc, généralement, le PIB, ben, il doit être calculé, hein, c'est pas en temps réel, là, ça. Donc, tu sais, le PIB qui se termine au 31 mars, on va le connaître quelque part à fin avril, là, tu sais. Donc, des fois, à partir du moment où on déclare la récession, des fois, elle est déjà finie. Une fois qu'on sait qu'on a deux trimestres négatifs consécutifs, on est déjà recommencé la croissance. Donc, ça, c'est vraiment un des très importants. On a l'indice des prix à la consommation. Donc, ça, c'est l'inflation, carrément, là. Donc, l'indice des prix à la consommation, c'est un chiffre. C'est une valeur d'un panier théorique de biens qu'on calcule. Puis, c'est quoi le prix du panier qui augmente? Et l'inflation, bien, c'est la différence du prix du panier entre ce mois-ci et le mois précédent ou l'année précédente. Donc, c'est vraiment c'est crucial pour déterminer, là, ça va être quoi le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, si les biens coûtent plus cher, bien, ça fait moins d'argent pour acheter d'autres biens parce qu'on doit continuer là, de consommer les mêmes biens. Donc, une inflation qui est trop élevée, bien, ça va amener la Banque centrale probablement à augmenter les taux d'intérêt. Ça peut donc ralentir la croissance économique puis par conséquent affecter négativement les marchés boursiers. À cet égard, donc aujourd'hui, la Banque du Canada va se prononcer justement sur les taux d'intérêt. Donc, la prévision, étant donné que au Canada, l'inflation est sous contrôle, on est en dessous là, à la cible de 2 % et la Banque du Canada donc va continuer de relâcher la tension qu'elle avait mise sur l'économie en augmentant les taux. Donc là, elle devrait, on s'attend à baisser les taux d'un quart à 2,75. Ça va faire du bien à ceux qui ont des hypothèques à taux variable. On continue d'aimer ça. On a ensuite le taux de chômage. Donc, le taux de chômage, ça donne une aperçu de la santé du marché du travail. Donc, un taux de chômage qui est bas, bien, ça, évidemment, ça indique que l'économie est en bonne santé. Ça peut stimuler la consommation puis les bénéfices des entreprises. Un taux de chômage qui est élevé, bien, évidemment, ça signifie qu'il y a des problèmes économiques puis ça va avoir un impact sur la confiance des consommateurs. Et ça, la confiance des consommateurs, c'est aussi en soi un indice. Donc, la confiance des consommateurs, elle n'est pas uniquement basée sur l'emploi. Elle est basée sur les anticipations futures d'inflation. Elle est basée sur la politique. Elle est basée sur toutes sortes de trucs. Ce qui est souvent important de comprendre avec la confiance des consommateurs, c'est généralement un indicateur contrarié. Donc, quand on fait un sondage puis on demande à tout le monde, est-ce que vous avez confiance dans l'économie pour les 6 prochains mois? Si les gens répondent non, on peut présumer qu'ils ont peut-être déjà réduit la proportion d'actions dans leur portefeuille, qu'ils ont peut-être déjà réduit certaines dépenses, ils ont déjà pris acte parce qu'ils ont présentement pas confiance. Fait qu'ils ont pris acte de ce manque de confiance-là. Bien, qu'est-ce qui est susceptible d'arriver dans les prochains mois? Bien, c'est probablement un changement de tendance. Donc, tu sais, si j'ai déjà vendu, ben, ce qui fait baisser la bourse, quand tout le monde vend en même temps, ben, je ne peux pas vendre davantage, j'ai déjà vendu. Donc, c'est vraiment...
Je pense qu'aux États-Unis, la confiance des consommateurs est en baisse actuellement, ce qui fait réagir.
Elle est pas mal basse et ça, ouais. ça explique effectivement là, la situation des marchés présentement. On va parler aussi donc de taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc, on a mentionné pourquoi est-ce que les taux d'intérêt influencent l'économie puis la bourse? Bien, quand la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, bon, ça a un impact sur le taux préférentiel des banques, donc ça augmente le coût d'emprunt. Donc, si je dois payer plus cher d'intérêt sur l'ensemble de mes dettes, bien, ça me laisse moins d'argent pour acheter des biens et des services. Donc, ça va avoir un effet de ralentir l'économie. Et inversement, si je baisse les taux d'intérêt, donc non seulement ça va rendre mon emprunt moins dispendieux, donc plus d'argent pour dépenser, mais ça rend aussi l'épargne moins attrayant. Donc, tu sais, qui veut économiser si le taux d'intérêt est 0,5%? Les gens vont dire, ben, je suis aussi bête de dépenser mon argent. De toute façon, je fais pas de rendement si je place dans un dépôt à terme quand les taux d'intérêt sont très, très faibles. Les indicateurs du marché du logement. Donc, le marché du logement, c'est un autre indicateur quand même important. Des données comme les ventes de maisons, le prix de l'immobilier, là, ça peut fournir un indice sur la santé de l'économie.
Les nouvelles maisons, nouvelles constructions.
Exact, les nouvelles constructions. Et quand on parle donc ici de biens durables, quand j'achète une maison... Là, je suis en train de m'engager dans un projet qui va me coûter cher pendant 20-25 ans. C'est important d'avoir confiance aussi. Donc, tu sais, si je m'engage dans l'achat, dans la construction d'une nouvelle maison, bien, probablement que j'entrevois l'avenir d'un bon œil, j'ai un bon emploi, je vois mon salaire augmenter. Donc, les conditions générales de l'économie là, sont robustes. C'est ça qui me permet là, de me lancer dans un projet comme celui-là. Donc, tu as mentionné le non-farm payroll, là, donc les emplois non agricoles. C'est aussi, là, ça c'est un sondage, hein, ça va mesurer non seulement le nombre de personnes de plus qui travaillent, ce sont les emplois du secteur privé, donc on exclut les gouvernements, on exclut les travailleurs autonomes, on exclut toutes sortes d'affaires, là, mais ça donne quand même un chiffre qui est comparable d'un mois à l'autre. Ça va aussi calculer le taux de participation. Donc, combien de personnes en âge de travailler, donc qui ont théoriquement, là, c'est quand j'ai 15 ans et plus, je suis en âge de travailler, et que je travaille, je suis activement à la recherche d'un emploi où je travaille. Donc, quand ça va bien, bien mal, les gens abandonnent. Mettez-vous dans la peau d'un chômeur qui ça fait 6 mois qu'il est sur le chômage, il a envoyé 200 CV partout. Puis là, il trouve rien. Une année, il fait juste abandonner. T'sais. Donc là, le taux de participation diminue. C'est pas bon signe pour l'économie. Donc, quand on a un taux de participation qui augmente, donc on a des nouveaux travailleurs qui se joignent à la force de travail, ça va aussi avoir un impact, peut-être pour endiguer la hausse des salaires. Donc, si les gens, plus de gens travaillent, mais que les salaires sont, les employeurs ont plus de facilité à trouver de la main-d'œuvre, ben, ça va permettre peut-être de garder des salaires
un petit peu plus contrôlés. Puis le non-farm payroll de la semaine passée.
Ben le non-farm payroll de la semaine passée, donc c'est le premier vendredi de chaque mois qui sort. Donc, les chiffres d'emploi aux États-Unis, tranquillement, là, s'il y a une tendance, parce qu'il est important, c'est pas tant le niveau que la tendance. La tendance au niveau de l'emploi aux États-Unis, elle est clairement à la baisse là, depuis...
Mais ces chiffres-là sont révisés, hein, des fois, de mois en mois. Ils sortent un chiffre un mois, puis le mois d'après, ils révisent.
Donc, quand ils sortent le chiffre, ils disent toujours, bon, OK, ce mois-ci, le non-farm, il est... mettons, 140 000. Puis le mois passé, on vous avait dit 200, mais finalement, c'était juste 170. T'sais? Donc, des fois, il y a des révisions aussi. Ce qui fait qu'il ne faut pas tant réagir aux chiffres le jour même plutôt qu'à la tendance et la moyenne des 3-4 derniers mois. Parce que d'un mois à l'autre, comme je vous dis, là, c'est un sondage téléphonique. Là. Il appelle, puis bonjour Sarah. Oui, est-ce que vous avez travaillé ce mois-ci? Combien d'heures vous avez faites? Quel a été votre taux horaire? Donc, tu sais, ça dépend qui t'attrape. Là. Il y a un certain impact sur le taux de statistique là, dans ce sondage-là.
Je suis sûre qu'il y a d'autres statistiques, mais ça, c'est les principaux.
Ouais.
Donc, maintenant qu'on les a vus, comment est-ce qu'on peut interpréter ces statistiques? Donc, tu en as parlé un peu.
Oui. Donc, il y a un concept d'indicateur avancé et indicateur retardataire.
Mm-hmm.
Donc, un indicateur avancé, c'est quelque chose qui va bouger avant que ça se passe. La bourse est un indicateur avancé. Donc, la bourse va anticiper le futur de l'économie généralement. Donc, Quand on parle du produit intérieur brut, le PIB, ça, c'est un indicateur retardataire. C'est fini. On calcule, il y a 6 mois, c'était là, puis là, aujourd'hui, on est ici. C'est déjà terminé, là, cet indicateur-là. Donc, ça ne nous indique pas grand-chose sur le futur. Donc, c'est pour ça que quand on entend aux nouvelles, l'économie a ralenti, le produit intérieur brut a baissé ce trimestre-ci, on est en récession. Bien souvent, ça fait 3 semaines que la bourse a recommencé à monter. Pourquoi? Parce que la bourse, elle ne vit pas dans le présent, la bourse vit dans le futur. Donc, il y a cette notion d'indicateur avancé, indicateur retardataire. Donc, d'autres indicateurs avancés, les écarts de taux d'intérêt entre les obligations court terme et les obligations long terme. Donc, quand on voit que les taux courts sont plus élevés que les taux longs, généralement, là, ça va présager d'un éventuel ralentissement de l'économie en général. L'indice des prix à la consommation, lui, ben, c'est retardataire. On compare les prix du mois passé à l'année passée. Donc, il y a toutes sortes de... Faut vraiment là, pas trop réagir brusquement. C'est important de comprendre comment l'économie bouge. Je pense que c'est pour un investisseur, tu sais, la bonne façon d'investir, c'est de détenir des bonnes entreprises et de les garder à long terme. Par contre, c'est utile des fois de voir, OK, ben mon portefeuille a baissé un petit peu. Pourquoi il a baissé? J'ai tel indicateur qui est sorti, qui a un impact peut-être à court terme négatif. Est-ce que c'est dommageable pour mon portefeuille? Ben si je n'ai pas besoin de dépenser l'argent cette semaine ou le mois prochain, on devrait juste l'ignorer. Si je suis encore en période d'accumulation, là, tu sais, ma retraite, c'est dans 20 ans, puis à tous les mois, je mets de l'argent de côté. On devrait se souhaiter une baisse des marchés pour acheter plus à moins cher parce que ce qui est déjà investi, de toute façon, j'en ai pas besoin. En période de décaissement, donc beaucoup de clients sont inquiets, ben sont proches ou sont en période de décaissement. Là, ce qui est important, c'est peut-être de travailler en silo, de dire, OK, ben dans l'ensemble de mon portefeuille, je décaisse 50 000 par année. Ben j'ai 300 000 $ en titres à court terme ou à revenu fixe. Donc, j'ai comme 5-6 ans devant moi de décaissement avant d'être obligé de vendre des actions en baisse si les actions baissent.
Puis, qu'est-ce qu'on demande aux clients? C'est nous tenir au courant de vos projets. Parce que si vous avez des projets court terme dans les prochaines semaines, mois, années, dites-nous-les pour qu'on puisse mettre de l'argent de côté pour pas que vous ayez à vendre pendant que le marché est si volatile.
Ouais. Puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est les marchés réagissent aux attentes. OK? Donc quand la bourse elle anticipe les nouvelles qui vont sortir, fait que des fois quand la nouvelle sort, la nouvelle est mauvaise, mais juste moins mauvaise qu'on pensait. Bien, la bourse, ça monte. Donc, c'est difficile. On peut être capable d'anticiper les nouvelles économiques peut-être même plus facilement que la réaction de la bourse face aux nouvelles économiques. Parce qu'en réalité, on ne sait pas exactement la bourse. C'est quoi les attentes du marché, de l'ensemble des intervenants dans le marché face à l'indicateur qui va sortir à 8h30 ce matin. Donc, on voit l'indicateur sortir, on dit « Ah, c'est pas un bon chiffre, ça. » Puis là, la bourse monte de 200 points. Tu veux dire, comment ça, tu sais? Ben parce qu'on pensait que c'était pour être pire.
Puis gare aux gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de proclamer toutes sortes de choses. Hein? J'ai quelques clients qui ont appelé pour dire « Apparemment, c'est ça. » Ça, c'est
ouais, TikTok, c'est pas la meilleure source d'information financière.
Non, mais c'est normal aussi hein, que les gens écoutent. Puis on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, le réflexe des clients de nous appeler, c'est vraiment la meilleure chose.
Absolument.
Donc, en résumé, les statistiques économiques jouent un rôle central dans l'évolution des marchés financiers. Elles nous permettent de mieux comprendre l'état de l'économie et d'adapter nos stratégies d'investissement. Il est essentiel de suivre ces indicateurs régulièrement et nos gestionnaires de fonds le font.
Oui.
Donc, vous ne nous voyez pas nécessairement transiger de notre côté, mais nos gestionnaires les suivent vraiment à la lettre et ils vont saisir les opportunités. Il y en a plusieurs qui nous l'ont dit. Dans un marché volatile comme celle-là, il y a des opportunités et nos gestionnaires vont les saisir. Merci beaucoup, Martin, pour tous nos clients et partenaires. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. S'il vous plaît, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.